Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h et c'est un vrai bonheur d'être avec vous tous les jours du lundi au vendredi, midi 15h avec Rémi Barré, Daniel Riolo, Mathilde Himmer et Perico Légas. Dans un instant, on va parler de l'équipe de France. On est à 2 mois de l'ouverture de la Coupe du Monde et ça ne va pas fort du tout du côté des Bleus. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'équipe de France? On vous attend au 32-16. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et une bonne nouvelle, enfin... moins mauvaise que prévu en ce qui concerne nos assurances. À 14h, 8 Français sur 10 roulent seuls dans leur voiture. Faut-il rendre le covoiturage obligatoire aux heures de pointe? On attend vos messages sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. 14h30, RMC s'engage pour vous. Et Amélie Rosic reviendra sur les galères d'une usagère d'SNCF Connect. Vous savez, c'est l'application de la SNCF. Elle a été verbalisée par erreur. Non mais c'est ubuesque. On vous expliquera tout ça à 14h30 et on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser maintenant au compte à rebours du jour. Nous sommes à 2 mois pile du début de la Coupe du Monde de football au Qatar. On ne va pas se mentir, ça ne se présente pas sous les meilleurs auspices hein, pour les Bleus. Entre les scandales, les mauvais résultats, les blessures, l'équipe de France semble affaiblir, Rémi.
Exactement, les difficultés s'accumulent et c'est peu de le dire. Il y a d'abord les blessures, attention, blessures en série. Tenez-vous bien, dernière en date annoncée ce matin, celle du défenseur Lucadini, touché à la cheville droite. Hier, c'était le capitaine et gardien de l'équipe Hugo Lloris, lésion à la cuisse droite, l'arrière-gauche Théo Hernandez, déchirure à la cuisse droite, Hernandez qui justement devait être remplacé par qui ? Ben, par Lucadigne, dans la perspective de la Ligue des Nations face à l'Autriche jeudi et au Danemark dimanche. Il faut y ajouter les forfaits de Paul Pogba, convalescent après son opération du genou droit, de Kimpembe, de Lucas Hernandez, d'Engolo Kanté, de Kingsley Coman, de Karim Benzema et d'Adrien Rabiot. N'en jetez plus, comme si ça ne suffisait pas.
C'est un beau match.
Ouais, il faut y ajouter aussi les affaires au sein de la Fédération française de football. Le bras de fer avec Kylian Mbappé, mécontent de la gestion du droit à l'image collective des joueurs qui refusent de participer à l'opération marketing prévue aujourd'hui à Clairefontaine avant que finalement la Fédération ne cède. Il y a aussi les accusations du magazine SoFoot sur une fédération gangrénée par le harcèlement, l'alcool et un management brutal avec au cœur du système le président Noël Le Graët, 80 ans, a sujet un audit doit être lancé par le ministère des Sports. Et je n'ai même pas parlé de l'affaire entre Paul Pogba et son frère Mathias.
Et non, parce que vous n'avez pas le temps. On n'a pas
ça
le
fait
temps.
Quand même, hein.
Oui, ça fait un peu beaucoup pour l'équipe de France. Faut-il s'inquiéter pour les Bleus? Je vais vous garder au chaud. Daniel, je vais vous laisser un petit peu bouillir dans votre coin. Et je vais commencer avec Mathilde Himmer, qui est une grande fan de foot.
Moi, je suis inquiète, oui. Je trouve que le nombre d'affaires qui s'accumulent, on voit bien que la Fédération française de foot aujourd'hui n'est pas en capacité de gérer. Ils n'ont même pas été en capacité de gérer la demande de Mbappé qui est là depuis des mois. Ils l'ont traité avec un certain mépris. Finalement, ils gagnent le bras de fer. Je trouve que c'est une bonne chose. Néanmoins, je pense qu'il y a des changements de poste qui doivent être faits. Est-ce que c'est avant la Coupe du Monde? Est-ce que c'est après la Coupe du Monde? Ça, j'ai pas d'avis. Qui ça doit être? Je pense que Daniel est bien mieux placé que pour moi que pour le dire. En revanche, oui, je suis inquiète et je suis aussi inquiète plus globalement pour cette Coupe du Monde. Tu regardes le premier test, pénurie d'eau, problème de climatisation, des gens qui font une queue de 2,5 km. Ouais.
Après, les tests, c'est pour voir ce qui marche pas.
Ouais, mais je veux dire, on n'a jamais fait un test quand ça se passait chez nous ou dans d'autres pays aussi nullissime, quoi. C'était quand même un énorme fiasco. Et c'est dans 2 mois. Donc, il y a quand même pas mal de sujets. Je me dis, oui, inquiète. Après, moi, ça m'empêche pas de continuer à jouer avec mes potes le week-end.
Voilà. Mais à soutenir les Bleus, peut-être un peu moins.
Si, je veux les soutenir. Je vais pas arrêter de les soutenir. J'espère que surtout, ça va suffire.
Perico, les gars, je sais que le foot c'est pas votre tasse de thé, mais est-ce que ça vous inquiète ce qui se passe pour les Bleus, ou est-ce qu'au contraire ça vous fait sourire en disant c'est bien fait, tiens?
Estelle,
oui.
La France a peur.
Roger Gilles.
C'est la France a peur parce que c'est la cour des miracles, votre définition de ce qui se passe en ce moment. C'est ennuyeux. Est-ce que ce serait le reflet, j'allais dire, de la décomposition qu'il y a dans ce pays, cet affaiblissement de toutes nos institutions, nos footballeurs qui sont l'emblème justement de notre énergie, voilà. Tout d'un coup, c'est défaillance physique. Alors, est-ce que le football serait devenu très violent pour qu'il y ait autant de blessures?
Non, mais il y a un changement de rythme parce qu'il y a changement de rythme, l'hiver
voilà,
et pas l'été.
Ensuite, une défaillance. Écoutez, je crois que c'est l'occasion de purger un petit peu tout ça, de montrer que les footballeurs sont comme les hommes politiques, ils ont leur défaillance. C'est incroyable, tout ce qui est institutionnel aujourd'hui s'écroule et se fend de tous les côtés. Même le football On peut plus aller à l'université parce qu'il n'y a plus d'électricité. On peut plus dire bonjour à quelqu'un sans être soupçonné immédiatement d'avoir une pensée illicite. Et là, on a nos footballeurs qui étaient la fine fleur du pays, qui sont en train de s'effondrer. La France a peur. Je pense que c'est l'occasion peut-être pour le peuple français de se rassembler autour de ces footballeurs. Ils ont besoin.
Mais je suis pas sûr.
Ils ont besoin de se sentir aimés. Non. Je pense qu'ils allaient tellement bien, comme ils sont riches, comme ils sont bien payés. Ben, il y avait une désaffection. Il faut qu'ils redeviennent l'équipe nationale. C'est les Bleus. Mm. Et il faut qu'il y ait un mouvement patriotique autour d'eux pour les
soutenir. Il n'y a jamais de désaffection lors des grandes compétitions. Hein.
Ouais, mais là, on est inquiet. Ça va donner quoi? Est-ce qu'ils vont seulement y aller? Est-ce qu'ils sont? Est-ce
bah oui, ils vont y aller. Oui, ça. Mais comment? Et en avion.
Ils vont y aller. Voilà. Ils vont y aller en avion. Vous vous rendez compte du danger?
Ça, c'est sûr.
Qui va payer le carburant de l'avion?
Non, mais la Fédé a mis un peu de côté. Je pense que là-dessus.
J'attends l'avis de Daniel quand même, parce que moi, je suis inquiet.
Oui, mais justement, je l'ai gardé pour la fin. Tu vois, justement. Mais Daniel, est-ce que tout ce qui se passe, c'est pas un mal pour un bien, finalement?
Oula.
Vous savez, le fameux coup de pied dans la fourmilière dont on parle tellement en politique, est-ce que c'est pas en train d'arriver en foot? Voilà.
Il y a le coup de pied?
Bah, on est en train.
Oui, il y a la fourmilière.
Est-ce que qui a donné le coup de pied dans la fourmilière?
Pour l'instant, personne, mais il me semble que la ministre des Sports est en train de faire un audit sur la Fédé.
Quand le roi des fourmis sera viré. Oui. Je pourrais dire qu'on a fait sauter la fourmilière. Ou qu'il partira de lui-même. Mais pour l'instant, il s'accroche. Il arrête pas de dire, même en rêve, on me foutra pas dehors. Je m'accroche. Il s'accroche au pouvoir et à sa coupe de champagne.
Enfin, c'est pas lui qui fait qu'il y a des blessés en équipe de France.
Ça n'a rien à voir, les blessés en équipe de France. En 2012, quand Didier Deschamps a pris en main l'équipe de France, après Nice-Na, après un Euro 2012 qui s'était également pas très bien passé, il a élaboré une charte éthique. Lui et Noël Le Graët, s'entendant comme deux barres Twix dans un sachet, ne se quittaient pas, c'était les meilleurs amis du monde. Nous allons redresser le football français. Elle est où la charte éthique aujourd'hui? Où il est le patron qui dit la Fédé doit être bien tenue. Si les joueurs fautent ou parce que les blessés, c'est anecdotique, les blessés dans deux mois. Et justement, il vaut mieux qu'ils soient blessés maintenant. Ça se trouve dans deux mois, ils seront plus blessés, ils seront en pleine forme. Voilà. Donc on s'en fout de savoir que Truffert, que personne ne connaît, va remplacer Digne, que très peu de gens connaissent également.
Qui lui-même devait remplacer
un autre mec qu'on connaît peu. Donc finalement, on s'en fout là que ce soit un Kidam qui joue des matchs en bois qui n'intéresse personne. La Coupe du Monde elle est dans deux mois. On verra bien. Ils seront peut-être en forme à ce moment-là. Ouais. Mais moi, je parle de l'image qui est donnée du football. Toujours dégradée, que ce soit la Ligue 1, notre championnat. À chaque fois qu'on va en Coupe d'Europe, on prend des tartes. Ou l'équipe. Mais ça intéresse que 2 millions de personnes. Les Coupes d'Europe, le championnat, c'est le grand public, les matchs qui font 6 millions quand c'est un match amical, 8 millions quand ça commence à devenir un gros match, 10 millions, 15 millions quand c'est une demi-finale de Coupe du Monde. C'est là que l'image est importante. C'est là que les sponsors viennent et donnent des millions à la Fédé, qui occasionne d'ailleurs les problèmes de contrat dont parle Mbappé. Là, ils font un patron. Le patron, il n'y en a plus. Il y a une patronne, c'est pareil. Il n'y en a plus. Le duo Ardouin-Le Graët, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils accumulent les boulettes, les dossiers mal gérés.
C'est réquisitoire, dis donc.
Ça va pas empêcher l'équipe de France
Est-ce que ça peut empêcher l'équipe de France de gagner?
J'en suis pas convaincu. D'accord. Mais néanmoins, la ministre doit intervenir. C'est la ministre de tutelle et dire, écoutez, avec tout ce que vous avez sur le dos, faites vos cartons. Partez. Un intérimaire pendant la Coupe du Monde, parce qu'on s'en fout que ce soit Le Graët qui vienne boire du champagne au Qatar ou que ce soit quelqu'un d'autre. C'est la même chose. Peu importe qui sera le président. On recommence tout. Un intérimaire. On refait des élections. On prend le temps de les organiser. On a un nouveau président et on fait le ménage. Les joueurs qui ont des problèmes, parce que vous savez que là, en ce moment, Deschamps, il faut qu'il fasse son équipe en allant à l'hôpital tellement ils sont tous blessés. Ouais. Bientôt, il faudra qu'il aille dans les tribunaux. Parce que sur les 5 dernières années, le nombre de joueurs qui ont eu des démêlés avec la justice, c'est quand même effarant. Il n'y a qu'en France qu'on a ça. Donc, les mecs qui ont des problèmes avec la justice, vous réglez vos problèmes. Là en ce moment il a pas la tête à jouer au foot.
Il est pas jugé.
Le mec il est sous protection policière. Il est au milieu d'une affaire avec des gros bras, des malfrats et tout. Vous réglez vos problèmes. Parce que pour l'image de l'équipe de France, parce que c'est pas non plus le niveau, c'est l'image de l'équipe de France, qui a quand même beaucoup souffert au cours des 10, 15 dernières années. Vous réglez vos problèmes, quand vous êtes nickel, vous revenez en équipe de France. Et il faut un patron pour dire ça. Et Deschamps, c'est ce qu'il avait dit. Deschamps, en 2012, quand il fait sa charte éthique, il avait même eu cette phrase qui m'avait, vraiment, j'étais resté mais stupéfait, il avait dit « Aujourd'hui, nous sommes face à des footballeurs qui ne savent plus reconnaître le bien du mal. » C'est quand même formidable, ça. C'est quand même incroyable. Et ben aujourd'hui, qu'ils retournent savoir ce qui est le bien et ce qui est le mal, et ils reviennent en équipe de France quand ils ont réglé tous leurs problèmes.
Non. Voilà. Alors, on a plein d'auditeurs. Bah tiens, je pense en plus qu'ils veulent te
parler. Et en attendant, Daniel, mais... le nettoyage, le coup de pied dans la fourmilière. Allez hop.
Mais tu veux pas le faire après la Coupe du Monde, le nettoyage?
Non, mais à quoi ça sert? Pourquoi il faut attendre?
Mais parce que, est-ce qu'on change pourquoi avant une Coupe du Monde?
Là où Dea Cacera va faire un audit, mais avec tout, mais il y a pas besoin d'un
nouveau,
mais il y a pas besoin d'un audit avec toutes les affaires qui sont sorties. Elle a besoin juste de taper sur internet Noël Le Graët, elle va voir toutes les affaires. Elle dit oh, moi je viens d'arriver comme ministre mais j'étais pas au courant. Allez hop, tu t'en vas là, monsieur. Allez, vous partez.
Oui,
bah il y a là, pas besoin d'un audit, on le sait tous.
Et ben alors pourquoi elle le fait pas?
Elle a mais je sais pas moi parce qu'à chaque fois qu'on nomme des ministres des sports, on nomme des gens qui connaissent pas.
Le président va s'en mêler. Le président de la République va s'en mêler.
Le président qui, Emmanuel Macron.
Oui, il est fort possible,
bien sûr.
Il est fort possible. Mais si, il est fort possible. Ça va chatouiller.
Non, il se mêle des transferts, il se mêle pas
moi,
des transferts.
Moi, je te dis qu'il est fort possible que ça se passe comme ça.
Ça va le chatouiller, il va se fâcher.
Parce que, et puis cette mode aider. Et cette tendance historique à toujours nommer un ministre des sports qui ne connaît rien au football, alors que c'est le sport le plus populaire, le sport le plus suivi, et le sport qui fait vivre économiquement tous les autres. Mais à chaque fois, on fait en sorte de nommer le ministre qui ne comprend rien au football. Parce que je te rappelle quand même que la ministre des sports, c'est celle qui avait dit, après les incidents du Stade de France, « Oh mais oui, mais... » Quand même, quoi! Si on avait connu le nom des finalistes au mois de février, on aurait pu s'organiser!
Oui, c'était
c'est
énorme.
Pas mal, hein.
Mais c'est effarant,
quoi! Ben oui, je sais, c'est comme ça. Bon, on va prendre Amadou, qui nous appelle de Nogent-sur-Marne. Bonjour, Amadou.
Oui, bonjour, Estelle.
Ben, merci d'être avec nous sur RMC, Amadou.
Merci, hein, je vous écoute tous les jours. Je vous écoute aussi les grandes gueules et l'after. Donc,
je connais un peu
Daniel Riolo, je connais un peu son avis, mais. Voilà, moi je pense qu'en fait que oui, il faut être inquiet pour les Bleus à 2 mois de la Coupe du Monde parce que je pense. Vous m'entendez ?
Oui, bien sûr.
Voilà, je pense que déjà il y a la malédiction du champion du monde, c'est que à chaque fois les derniers champions du monde sont souvent sortis dans les poules, et je pense qu'avec le nombre de blessures qu'on a, je pense que c'est catastrophique niveau sportif et niveau aussi au niveau de la fédération, au niveau politique. Je pense que la fédération française de football devrait écarter en fait Noël Le Graët, parce que je comprends pas pourquoi on garde une personne comme ça. Après des scandales comme ça qui sont très graves, on devrait l'écarter. Et je trouve très, très grave que, par contre, que le football n'a pas fait en fait une sorte d'audit depuis des années. Parce que Sarah Bibol, quand elle avait sorti son livre sur les agressions sexuelles qu'il y avait dans le milieu du
patinage
artistique, je pense qu'on aurait dû faire exactement la même chose dans le milieu du football. On aurait dû, c'est-à-dire faire en sorte de vérifier que, et d'écarter tous les prédateurs sexuels ou les personnes qui seraient... voilà.
Ouais, mais alors dans ces cas-là, c'est dans tous les milieux. Il y a pas de raison que ce soit en sport, en politique et pas ailleurs.
Oui, c'est ça. Mais moi, pourtant,
partout.
Le foot, c'est mon sport. Mais je pense qu'on aurait dû faire ça. On aurait dû vérifier que et écarter ces genres de personnes.
Noël mais vous l'aimez cette équipe de France encore, Amadou? Vous l'aimez cette équipe de France? Est-ce que vous aimez l'équipe de France aujourd'hui?
Oui, moi j'aime l'équipe de France, mais après il y a certaines personnes, par exemple, que je pense que ils ont pas forcément leur place, ils ont pas forcément la place en fait dans le cadre de l'équipe de France. Noël Le Graët, franchement, moi ça fait des années, je suis d'accord avec Daniel Riolo, je pense qu'il a fait des années qu'il aura dû sauter. Hein.
Mmh. Ouais. Bah oui, mais là il a été réélu.
La dernière affaire, parce qu'à chaque fois on parle de tout ce qui concerne les hommes, mais ce qui s'est passé dans le football féminin, c'est terrifiant ce qui s'est passé dans le football féminin.
Pour ceux qui auraient suivi.
Alors l'affaire Amraoui Diallo qui a opposé les deux joueuses au mois de novembre de l'année dernière, l'affaire sort dans la foulée. Amraoui est traîné dans la boue, sa vie
privée. Alors on explique, en fait, Amraoui, elle s'est fait frapper à coup de barre de fer, et voilà. En fait on apprend que
c'est sa coéquipière. Donc on a voulu lui casser les jambes. Pour expliquer le mobile, on a mis en avant sa vie privée et que c'est parce qu'elle aurait cassé la vie privée d'un ancien joueur d'équipe de France, Eric Abidal. Enfin bref, le mobile à ce moment-là.
Elle a été traînée dans la boue alors que c'est elle la victime.
On ne le connaissait pas trop. Résultat, plusieurs mois après, celle qui était dans la voiture avec elle, on apprend que c'est elle la commanditaire. Entre-temps, Aminata Diallo, puisque c'est d'elle dont il s'agit, Elle s'était répandue dans les médias, sa famille aussi. Ma fille, elle est formidable, il s'est rien passé et tout. Et le scandale, c'est qu'on apprend ça aujourd'hui. Mais que des rumeurs de plus en plus fortes aujourd'hui et des sources proches du dossier nous disent que les conclusions de l'enquête étaient connues fin mai, début juin.
Ah bon ?
Et que la Fédé n'a rien dit parce qu'il y avait l'euro féminin.
Et oui.
Et que les valeurs du foot féminin qu'on mettait en avant, même au niveau du gouvernement, le football féminin paré de toutes les vertus, alors que ce qui s'est passé cette année dans les clubs, et notamment au Paris Saint-Germain, qui s'est lavé les mains de cette affaire, qui n'a pas du tout aidé Amraoui, personne n'a rien dit. Il fallait mettre ça sous le tapis,
pas
et ça sort aujourd'hui. Mais Mais combien d'affaires il va falloir? Et pendant ce temps-là, Noël Le Graët a continué de soutenir tout le monde.
Si ça avait été chez les garçons, ça aurait été un scandale.
Mais ça, c'est une affaire. Alors, mais ça, c'est une affaire. Mais le ministère des Sports peut pas rester sans rien faire là-dessus. Et doit demander, s'assurer. Le Graët, vous étiez réellement au courant? Parce que ça, mais sa vie a été ravagée à Emraoui par cette histoire-là. Et aujourd'hui, mais rien, mais moi je comprends pas qu'il puisse aller à la Coupe du Monde. Si Noël Le Graët va au Qatar à la tête de l'équipe de France, c'est un scandale monumental.
Bah écoutez, on va voir s'il va y aller, puisqu'il doit rencontrer la ministre bien très vite là, avec Florence Ardoin, la directrice générale.
Mais moi je suis prêt à recevoir dans l'After Foot la ministre des Sports. À chaque fois qu'on l'invite, elle veut jamais venir.
Bah non, c'est pour parler de foot, vaut mieux qu'elle vienne pas. Enfin pardon.
Bah, elle a qu'à prendre des conseillers.
Bah enfin des conseillers.
Elle a qu'à prendre des conseillers qui vont lui apprendre ce que c'est.
En fait, je sens que ça tiendra pas et que ça va être une cata. Donc autant, enfin si j'étais elle, je ne viendrais pas non plus.
Mais pourquoi?
Avec vous? Mais jamais de la vie. Mais t'es fou quoi. Bon, on va prendre.
Je comprends pas, mais faut bien qu'elle réponde.
Oui, mais elle va pas te répondre à toi. Hein. Bah non, mais toi,
Non. N'empêche que la question lui est posée, oui, pas seulement par Daniel. Voilà.
Dans ces cas-là, t'acceptes pas le poste de ministre des Sports.
Si t'es pas capable de répondre à qui que ce soit, c'est que t'es pas à la hauteur de ce poste. Ouais. C'est mon avis.
Bah voilà. Écoute, moi, j'adorerais l'avoir face à toi, mais je pense qu'on ne verra ça, on ne verra jamais ça, malheureusement.
On peut l'interpréter.
Asdin, qui nous appelle de Metz et qui est en reconversion. Bonjour, Asdin.
Bonjour à tous. Vous allez bien?
Bien, et vous?
Bah écoutez, ça va, impeccable.
Vous m'avez l'air très zen, Asdin.
Ouais, moi je suis tranquille. Hein. Vous savez, il y a plusieurs sujets en fait.
Oui. De France. On a fait un gloubi boulga.
Ouais, voilà. En fait, il y a le sujet sportif et puis il y a le sujet extra sportif, on va dire. Sportivement parlant, moi, l'équipe de France, je suis pas inquiet. Vous voyez, pour la Coupe du Monde, on a une belle équipe, on a des beaux joueurs, on a une profondeur de banc. On a des joueurs de classe mondiale dans cette équipe.
Enfin, on reste sur 5 derniers matchs compliqués. Hein. On a une seule victoire sur les 5 derniers matchs.
Ouais, mais enfin les 5 derniers matchs c'était des matchs amicaux et c'était la.
Bah justement.
Donc c'est pas la même pression, c'est pas on est pas dans la même compétition, on va dire. Après on a les sujets extra sportifs et moi je suis tout à fait d'accord et ça c'est important de le souligner. Je suis d'accord avec Daniel Riolo, c'est incroyable. Je pensais pas faire ça un jour dans ma vie. Je suis d'accord avec lui à 100% concernant Noël Le Graët. Pour moi Noël Le Graët, c'est le pire président qu'on ait eu à la tête de l'équipe de France et de la fédération. Je comprends même pas qu'il soit encore à la tête de cette fédération. Je sais pas derrière. Enfin, je me pose la question. La Fédération française de football, elle est sous tutelle du ministère des Sports?
Oui.
Oui.
D'accord.
Mais alors après, Noël Le Graët, on est sur les derniers mois, les dernières années, si vous voulez, mais ça a été, on peut pas lui enlever que ça a été un excellent président de la fédération à un moment.
Je ne vois pas ce qu'il a.
Sur les comptes de la Fédé.
Mais les comptes de la Fédé, c'est pas sur sa tête que les comptes viennent.
Il va quand même redresser.
Mais alors dans ces cas-là, il fallait qu'il soit comptable alors.
Bah peut-être.
Il fallait qu'il soit comptable, mais pas président. Président, c'est pas juste. Président, c'est pas juste faire de la comptabilité. Lui, il dit, j'ai fait rentrer les contrats, mais les contrats, ils rentrent pas pour les beaux yeux de Noël Le Graët. Ils rentrent parce que l'équipe de France gagne, parce qu'il y a des joueurs charismatiques.
Mais quand Nike arrive, l'équipe de France, elle est pas là aujourd'hui.
Toi, moi, Rémi, Perico, Mathilde, on va à la tête de la Fédé. Si l'équipe de France gagne et il y a des joueurs charismatiques, on va tous les rentrer, les contrats. Non, c'est pas très compliqué. C'est pas pour Noël Le Graët et ses beaux yeux que les partenaires viennent, voyons.
Non mais d'accord, mais tu peux
non
pas...
mais tout ça a été mis à chaque fois. J'entends cet argument qui est d'ailleurs le seul argument pour défendre Noël Le Graët, c'est ouais, il a fait rentrer des sous. Mais c'est pas lui qui fait rentrer les sous.
Ah bah dans ces
n'importe
cas,
qui. N'importe qui les aurait fait rentrer les sous. Il avait qu'à rester, il avait qu'à être comptable si c'était juste pour faire des additions et des soustractions. Il a pas besoin d'être président. Président c'est autre chose, c'est l'image.
Ah bon d'accord. Bah donc...
C'est l'autorité de la Fédé, c'est tout ça.
Bah au début ça passait bien.
En tout cas
sur les premiers mois, là je suis pas d'accord.
Ah bah oui, les premiers mois bon.
Oui bah sur la. Non, mais je te dis pas le dernier mandat, on est assez d'accord.
Enfin rapidement la façon dont il a géré l'affaire Benzema Valbuena à l'époque, c'était 2014-2015 hein. Bon.
Il est vrai que c'est un personnage, moi qui n'y connais rien, j'entends son nom dans la controverse depuis longtemps, comme ça m'arrange.
Bien sûr.
Au du CIO, Le Graët, pour moi, c'est toujours. Bah oui, d'accord, ça, c'est pas les mêmes faits. Mais enfin, c'est quand même quelqu'un au cours duquel il y a un doute, quoi, voilà.
En tout cas, Azéline, lui, il est pas inquiet pour l'équipe de France, un peu comme vous. Daniel, manifestement, il est plus inquiet pour la fédération française. Jordan nous appelle de Montesson dans les Yvelines. Bonjour, Jordan.
Bonjour, Estelle. Bonjour, tout le monde.
Jordan, est-ce que vous êtes confiant pour l'équipe de France à la Coupe du Monde?
Alors confiant non. Bon, passer derrière une masterclass de Daniel, ça va être compliqué. Mais
c'est dur.
Non, là je remets confiance à 100% en Didier Deschamps, parce que c'est le seul maître à bord, même si je suis pas fan de sa communication, même si quand on lui parle de ça, il botte en touche. D'ailleurs, vous parlez de la ministre des Sports qui devrait être invitée à l'after. Je rêverais de ça, moi aussi.
Bah, moi aussi.
Sauf que Daniel est la seule personne, j'ai l'impression, à pouvoir dire les vraies choses.
C'est pour ça qu'elle viendra pas.
Voilà, ouais, je pense. Mais c'est dommage. Donc, non, je remets là, faut avoir confiance en Didier Deschamps. Parce qu'on n'a plus le choix. Parce qu'il n'y a plus de maître à bord. Parce que plus haut, c'est n'importe quoi. Et que, en dehors des blessés et tout ça, on n'a pas le choix. Donc c'est lui qui doit gérer. L'euro s'est mal placé avec les affaires Giroud et Mbappé. Mmh. On a eu aussi des histoires d'hôtels qui étaient mal placées, etc. aussi.
Ouais.
Donc faut que tout soit réuni pour faire, on espère, une belle Coupe du Monde. Mmh. En tout cas, c'est très mal parti. Donc on attend, je pense, ces deux matchs, même si ça sera pas l'équipe type, pour être rassuré un peu plus, même si l'équipe va beaucoup changer.
Ah oui, donc, ça va être l'équipe C. Ouais.
Confiant, on en est loin quand même.
Mais pas inquiet non plus, quoi.
Pas inquiet non plus, on n'est pas loin. On n'est pas loin.
Mais c'est vrai que Jordan, vous avez parlé de l'euro, parce qu'on l'oublie souvent, mais enfin, la France sort d'un euro calamiteux, parce qu'on a quand même été éliminé en huitième de finale face à la Suisse. Alors, on est champion du monde en titre, mais enfin, si on doit parler du terrain, il y a quand même quelques inquiétudes. Et on avait la grosse équipe, on va dire, quand même, à l'euro, parce que tous les cadors étaient là, il n'y a quasiment pas de blessés. Donc finalement, on peut peut-être être inquiet, parce que même avec, on va dire, la grosse équipe, on a quand même échoué lors de la dernière grande compète, quoi.
Je sais pas si ça se vérifie en foot, mais aujourd'hui, t'as plein d'études qui te montrent que c'est pas forcément le plus haut niveau de compétence de chaque membre d'un groupe qui fait l'intelligence collective et l'efficacité du groupe. C'est sa diversité et sa capacité à être complémentaire. À voir, est-ce que ça se vérifie à cette Coupe du Monde ou pas? J'espère que non, entre guillemets, j'espère qu'on va quand même réussir à avancer. Moi, je voudrais être un peu optimiste. Il y a une chose, moi, que je trouve vraiment intéressante dans ce qui se passe aujourd'hui dans le foot français. C'est finalement Kylian Mbappé qui met le coup de pied dans la fourmilière, qui défie en rapport de force la fédération française et qui
encore un dossier mal géré.
Ça
fait très longtemps qu'il les avait sollicités. Il a dit moi je veux juste vérifier ce que vous allez faire de ma tronche sur les photos et que Noël Le Graët, ce grand gestionnaire, lui claquait la porte à la tronche en disant c'est moi qui décide, il va pas nous emmerder le gamin.
Mais parce que d'habitude les joueurs ils courbent les chines et que lui il la courbe pas, c'est tout à
fait. Mais ça aurait pu être géré dans le silence de la Fédé si c'était correctement géré. Il est passé par la presse parce qu'il avait pas le choix. Mais moi je voulais quand même dire ça va vraiment dans le bon sens. Moi j'étais choquée de comprendre comment ça fonctionnait et de voir qu'en fait ils ont pas un mot à dire sur les pubs sur lesquelles ils apparaissent. Alors que dans le monde du ciné, bah les acteurs, ils ont un droit de regard. Bah ça me paraît normal. J'espère que ça va aller dans ce sens-là.
Ils portent pas un maillot de l'équipe de France quand ils sont au cinéma. Tu vois,
non, mais d'accord, mais tu vois très bien les milliards et les milliards qui coulent dans la pub pour nous faire consommer comme des malades. Bah mince, il y a un moment où quand même qu'ils puissent choisir d'être en harmonie avec les pubs sur lesquelles ils sont, ça me paraît la base. Et ça, je trouve que ça va dans le bon sens. J'espère qu'ils en useront collectivement demain.
Il faut que les autres fassent comme lui.
Mais ce que tu dis là, en fait, c'est une affaire de plus qui n'est pas gérée parce que totalement, ce président ne gère rien. La dernière, il faut vraiment la dernière parce qu'il y en a tellement, elles me reviennent. Perico, toi, tu connais pas bien le foot et tu suis pas ça. Tu vas me dire si tu trouves que, imagine en politique, c'est arrivé. Auprès de l'équipe de France, tu as un intendant qui est proche des joueurs. Hein. L'article de SoFoot disait même qu'il leur servait de croupier. C'est vraiment le mec et c'est le meilleur ami de Deschamps. Ce gars-là, cet intendant qui s'appelle Bachir Nehar, par ailleurs, alors qu'il travaille pour la Fédé, il est salarié d'un homme qui s'appelle Vadim Vassiliev, qui est un des plus gros agents du marché français, agent de joueur. Ça, c'est normal, la Fédé dit rien là-dessus.
Conflit d'intérêt. C'est magistral. En politique, ça ferait un scandale retentissant.
Voilà. Bah là, c'est aussi en train, parce que le foot a sorti l'affaire.
Je tombe des nues, là.
Bah oui, bah écoutez.
Le Graët, il n'a rien à redire à ça. Deschamps, rien. C'est le témoin de son mariage, machin.
Ça signifie beaucoup de choses.
Bien sûr.
On va terminer avec Philippe, qui nous appelle de Nice. Bonjour, Philippe.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Alors, vous êtes agent sportif dans le rugby, Philippe, mais vous vouliez nous parler de foot.
Des gens bien.
Alors, je suis pas agent de rugbyman, je suis consultant. Et effectivement, je représente certains joueurs.
D'accord.
Et aujourd'hui, je me trouve d'ailleurs à Paris. Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, c'est super, Philippe. Et vous êtes inquiet ou pas pour l'équipe de France de foot?
Alors oui, en fait, je suis très inquiet. Et habituellement, je suis pas du tout d'accord avec Daniel Riolo sur plein de choses. Et aujourd'hui, je partage.
C'est très étonnant que vous soyez dans l'erreur aussi souvent.
Ouais, peut-être, probablement, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis avec vous et notamment sur deux sujets. Bon, le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure par rapport à LFI et NUPES, etc., où j'étais éventuellement d'accord avec lui. Cependant, la vie privée des gens À un moment donné, Daniel Riolo l'a quand même étalé lorsqu'il y avait l'affaire Neymar avec cette fameuse demoiselle dans le.
Oui, mais alors là on s'égare là. Philippe, juste. Voilà. Alors, on revient sur l'équipe de France, là.
Voilà, tout à fait. Je ne suis pas. Alors, j'arrive pas à comprendre comment, effectivement, ce papy installé depuis très longtemps à la tête de la Fédération française de football dont il ne connaît rien, effectivement. Qui est
ah bah si, vous pouvez pas dire qu'il y connaît rien. Non mais là, ouais,
ça, il connaît pas grand-chose.
Ben bah non, vous pouvez pas dire ça. Ben bah non.
Alors, il connaît le football d'il y a 76 ans. Ce n'est pas le même football d'aujourd'hui. Moi, avant d'être dans le monde du sport et dans le monde du rugby, j'ai 46 ans au passage. J'ai fait un centre de formation à Châteauroux. J'ai joué en national à Châteauroux.
Ben d'accord, bah lui il a dirigé un club. C'est pas pour le défendre, mais enfin, moi je veux bien tout entendre, Philippe. Mais vous pouvez pas dire qu'il connaît rien au foot. On peut dire plein de choses. Qu'il a mal géré tout ça.
En l'occurrence, c'est vraiment pas un bon argument.
Mais voilà, mais qu'il connaît rien au foot, c'est pas possible.
C'est pas vraiment le problème. Il pourrait même y avoir un président qui connaisse pas vraiment le foot tant qu'il fait bien son boulot.
Est-ce que sincèrement aujourd'hui? Ces problèmes d'image à 2 mois de la Coupe du Monde n'auraient pas dû être résolus il y a 6 ou 8 mois.
Bah déjà. Si, on est d'accord,
bien sûr.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, moi qui travaille dans le conseil et sportif, si moi qui représente une grande enseigne, j'avais des affaires aussi importantes et que je suis présomption d'innocence. Est-ce que moi, on m'aurait dit de ne pas me retirer? On m'aurait même viré de ma boîte en me disant « tu portes préjudice à l'image de la boîte ». Et aujourd'hui, il porte préjudice à l'image de la Fédération française. C'est le taulier et qui en plus, il suffit pas de lire les articles, mais on sait très bien que c'est lui qui est décisionnaire de tout. Et
avec il est président.
Qui collabore. Oui, mais aujourd'hui, on peut être président, mais on est quand même consulté auparavant.
De toute façon, là, il va y avoir un audit, et puis il va surtout y avoir une entrevue avec la ministre des Sports, et on verra bien ce qui va en sortir. Mais effectivement, vous êtes assez nombreux à penser qu'il doit partir avant le début de la Coupe du Monde. Je vous rappelle donc que la Coupe du Monde, elle démarre dans 2 mois au Qatar. Bon, on va voir ce qui se passe pour les Bleus avec les 2 matchs déjà de la Ligue des Nations qui se profilent. Mais en tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Êtes-vous inquiet pour l'équipe de France, Rémi?
C'est extrêmement rare. Je ne sais pas si en tout cas, c'est l'une des premières fois. On est à 50-50.
Ça arrive très rarement.
Très rarement.
Pile poil.
Ouais. À mon avis, 50-50. La machine est cassée.
On attend le premier match.
Et évidemment, cette Coupe du Monde, vous la suivrez en intégralité sur RMC à partir du 20 novembre.
Espérons.
Ah, si, on va la suivre, cette Coupe du Monde. Enfin, vous avez peut-être boycotté vous.
Non, 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 mais est-ce qu'il y aura de l'eau?
Le président de la Fédé, Yval, l'important c'est qu'il y ait du champagne, pas de.
Oh.
Ah, ça balance.
Ça, c'est une bonne vanne, ça. Dans un instant, êtes-vous prêt à moins prendre l'avion pendant 30 ans? Faut-il un bouclier tarifaire pour la taxe foncière? Et puis, faut-il sanctionner les rendez-vous médicaux non honorés? Ce sera le zapping le meilleur d'RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Oui, retour sur RMC, RMC Story. Il est 13h34 et c'est l'heure des meilleurs moments d'RMC. Le zapping, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va commenter ces meilleurs moments d'RMC ces dernières 24 heures avec Rémi Barré, Perico Légas, Daniel Riolo et Mathilde Immer. Et on va commencer tout de suite avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. Seriez-vous prêt à moins prendre l'avion pendant 30 ans? C'est l'appel lancé hier par Augustin de Romanet, c'est le PDG des aéroports de Paris. La transition écologique des avions étant très longue, il nous demande d'être plus raisonnable en modérant nos déplacements en avion.
Je ne me mettrai jamais en travers de ceux qui veulent avoir des comportements le plus responsables. Je pense qu'il faut être aussi raisonnable que possible dans ces comportements pour la période de transition qui va durer à peu près 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'avant que nous n'ayons, ce qui sera le cas dans 30 ans, des avions propulsés soit à l'électricité, soit à l'hydrogène, soit avec des carburants durables faits à partir d'électricité verte, il va y avoir cette période de transition pendant laquelle, c'est vrai, il faudra inviter les gens à être plus raisonnables dans le voyage aérien. Il n'est pas déraisonnable d'accepter une certaine modération.
De toute façon, entre les grèves et les retards, même si vous n'êtes pas écolo, vous allez moins prendre l'avion, de facto, ces prochaines années. Mathilde Immer, c'est quand même fou d'entendre le président des aéroports de Paris dire qu'il faut moins prendre l'avion, quoi.
Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais encore une fois, ça aurait été encore mieux pour nous si on avait prévu le coup. C'est-à-dire que s'il y avait des alternatives au train de manière importante...
Plus de trains moins chers, ce serait bien.
Ça, plus exactement. De trains moins chers. Mais en fait, encore une fois, c'est des propositions qui sont faites par les conventions, les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat il y a 3 ans. Macron et Bruno Le Maire ont bloqué. Pourquoi? Voilà, on en vient maintenant, c'est les PDG de Total. C'est les PDG d'Aéroports de Paris qui finissent par dire... ce que des citoyens de bon sens ont dit il y a trois ans, mais en obligeant les gens et du coup en culpabilisant derrière, parce que maintenant tu vas être montré du doigt si tu prends trop l'avion, ce que je pense aussi, moi à titre personnel, j'évite de prendre l'avion, c'est le geste écolo, prends pas l'avion en Europe par exemple, parce que c'est le geste qui a le plus d'impact et je préfère ça et continuer à manger un petit peu de viande et avoir une voiture à côté. Donc c'est vraiment le geste majeur, mais j'ai envie de dire encore une fois, ça montre à quel point...
Chacun peut le faire à la carte alors ?
Pardon ?
On peut faire à la carte alors ?
Bah, tu peux faire les gestes
que tu dis, je prends pas l'avion, mais chacun peut choisir ses gestes et tout ça.
En fait, t'as une empreinte carbone. T'as une empreinte carbone moyenne que chacun devrait avoir. En France, on a 9 en termes d'empreinte carbone.
Comment on fait pour savoir son empreinte carbone ?
Bah, t'as des sites qui permettent. Si je pourrais.
Mettons son billet d'avion, c'est marqué maintenant.
Bien sûr.
C'est obligatoire d'avoir
le billet d'avion.
Mais après, le problème, enfin, excusez-moi, quand vous. Là, vous parlez des courts trajets. Aujourd'hui, un billet d'avion,
voilà.
C'est moins cher qu'un billet de train. J'ai encore
mais
fait
c'est
ce
le
matin.
Système qui absurde.
Mais il y a un truc qui va pas.
Si on suit ce que dit le patron de l'aéroport de Paris, tu as totalement raison. C'est pas prenez mon avion, c'est voyager moins.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, un prix de train pour faire Lille-Marseille, par exemple, c'est sans commune mesure avec un prix d'avion.
Bah non, parce que c'est là où les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Quand tu vois qu'en Allemagne, en Espagne, ils font des investissements monstrueux dans le train qui donnent des passes pas chères pour les gens, pour que les gens prennent le train, les transports publics, pourquoi on le fait pas chez nous ? Et après, on va dire aux gens qui prennent leur bagnole, c'est de votre faute.
Bah
non, en fait, c'est aux pouvoirs publics de faire leur boulot. Et je suis désolée de le dire, mais sur la question de l'aviation, pour le coup, on peut taper sur les écologistes, mais ça, ils l'avaient dit, qu'en vrai, l'avion vert, l'avion à hydrogène, on n'aurait pas avant 10, 15, 20, 30 ans. Bon, il faut maintenant que ce soit le PDG de l'ADP pour que ce soit entendu. Il y a un truc quand même sûr, on a menti aux gens sur cette question écolo, en leur disant que c'était un truc pour les bobos et pour les riches, et là, ça leur retombe dessus par une porte d'entrée qui est le pouvoir d'achat. Et ça va être par la voie de la pauvreté et de la culpabilisation qu'on va leur imposer ça. Moi, je trouve ça juste scandaleux, et en tant qu'écolo, ça me met vraiment en rogne.
Oui, mais si tu taxes beaucoup plus les avions et que tu fais que les trains vont être moins chers, je vais te dire que, écolo ou pas, les gens vont prendre le train.
Mais c'est ça qu'il faut faire.
Le problème aujourd'hui, c'est que quand tu regardes le prix sur certains voyages, hein, évidemment, mais entre l'avion et le train, tu mets 10 fois moins de temps en avion et c'est moins cher. Donc à un moment, si t'as pas le pouvoir d'achat, qu'est-ce que tu fais ?
Je suis complètement d'accord avec toi, Estelle.
Alors évidemment, tu calcules pas le fait que derrière t'as pas de voiture, etc., etc., et que c'est plus compliqué d'être dans un aéroport que dans une gare. Mais tant que ce sera comme ça, bah malheureusement, on n'avancera pas.
Mais ça fait 20 ans, 20 ans qu'on dit ça.
Ils ont qu'à taxer l'avion. Ils veulent qu'on prenne moins l'avion. Ils ont qu'à taxer l'avion.
Taxer le kérosène, 20 ans. Et qui prend l'avion ? C'est les plus riches aussi.
Dans ces cas-là, il y a les riches qui prendront l'avion.
C'est déjà le cas.
Oui.
Mais aujourd'hui.
Ah non, c'est pas le cas. Avec les prix réduits, il y a plein de gens qui partent en vacances au soleil pour moins cher, justement. La démocratisation du prix du billet a fait que les gens avec moins de pouvoir d'achat ont pu prendre l'avion.
Oui.
Si on le taxe, on va revenir à ce qu'était l'avion dans les années 70, début des années 80. C'était les gens riches qui prenaient l'avion et qui partaient au soleil en hiver. Ou on va arriver
à ça. C'est les gens riches qui partent au soleil en hiver, Daniel.
Ou alors tu mets.
Ce sont les gens riches qui partent au soleil et au ski d'hiver.
Tu mets peut-être que t'as le droit.
Avec le fait que les prix et baisser, même des gens avec moins de pouvoir d'achat ont pu, fois tous les 2 ans, 3 ans, se faire ce luxe-là. Mmh. Avant, ça n'arrivait pas.
Et bien, dans ces cas-là, on met des quotas où tu as le droit peut-être à un trajet sur une durée de temps donnée. C'est là où on dit que ça doit être organisé. C'est que cette question-là, elle doit être posée. On doit trouver une solution.
Mon ordinateur, il reconnaît si j'ai pris un billet d'avion une fois et t'as plus le droit.
Oui, mais c'est tout aussi scandaleux que par les prix et par la pauvreté, ce soit encore une fois les pauvres qui prennent cher.
Exactement.
Parce que les pouvoirs publics n'ont pas fait leur boulot.
Je suis prêt à renoncer à tout. Et vous savez très bien que je serais favorable à remplacer même la voiture à cheval. Retrouver la diligence, la malle-poste, rester en France. Attendez, ce progrès formidable du transport, on a pu transporter l'humanité.
De masse.
Rapidement, pour pas cher, d'un bout à l'autre de l'humanité. Le résultat est quoi ? La planète crève. Donc ce progrès était un progrès de merde qui rend aujourd'hui tout le monde malheureux. Donc
pendant des années, c'était formidable. Le voyage forme la jeunesse.
Oui,
le fait de voyager, le fait d'aller voir d'autres cultures, d'autres civilisations.
Et le bilan, c'est quoi tout ça?
Ok, Perico, mais le bilan, c'est bien gentil. Assis sur une chaise en 2022, de dire c'était horrible. Sauf qu'il y a 10 ans, très peu de gens se posaient ces questions-là.
Daniel,
il y a 20 ans, encore moins de gens.
Daniel.
Et je vais te dire que moi, je suis même d'une génération où il y a encore un an. Parce qu'il faut quand même avouer que depuis 3 mois, là, il y a une accélération de ces prises de conscience, de ces thèmes. Même une blague n'est plus vraiment acceptée sur le sujet. Il y a une évolution. Moi, aujourd'hui, si on me dit demain, est-ce que t'es prêt à prendre moins l'avion? Sur le coup, je vais faire je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois partir qu'une seule fois en vacances par an?
Non, tu prends le train.
Je suis juste en train de dire que la prise de conscience, ma réponse, ça va être qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
C'est vrai.
Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ou
que
pas
c'est
faire?
Fini.
C'est une réorganisation
c'est
complète
de
sa mentalité de...
On a cassé la machine.
Est-ce que si cet été j'ai pris plus l'avion que l'année dernière, est-ce que je dois me sentir coupable ou pas? J'ai envie de partir pour les fêtes. Je vais le faire ou pas?
Ça veut dire qu'on a cassé la planète.
C'est pas facile, Perico, tout ça.
Non, on a cassé la machine. Est-ce qu'à un moment donné, la période que tu évoques était bien, est-ce qu'on pouvait pas s'en tenir là, au raisonnable, au mesuré? Pas des bateaux de 6000 personnes, pas des transferts de
population. Ça, Daniel, il y va pas, donc.
Des week-ends au Maroc, voilà, pour 70 euros les retours.
Voilà, à un moment donné, ça va.
Oui, mais d'accord. Oui, d'accord, sauf que les Marocains, l'économie du tourisme au Maroc, elle va tirer la tronche, donc tu vas aller appauvrir. Mais tu vas aller appauvrir des gens qui t'accueillaient justement en hiver.
Et qui vivra ça, toi.
Pour l'avion, c'est peut-être des emplois qui vont disparaître.
Oui, tu as raison.
Les répercussions économiques mondiales, elles sont complètement dingues. Donc il faut. Arrêtez de dire que c'est facile. C'est pas facile de repenser tout ça.
Mais on dit pas que c'est facile. Et d'ailleurs, toutes les questions que t'as posées et qui sont légitimes et qui sont justes, encore une fois, il y a 150 citoyens qui ont bossé pendant 9 mois en France et qui ont répondu avec des solutions. Et des citoyens de tous horizons politiques, sociaux.
Ça n'a servi à rien.
Ça n'a servi à rien parce que Macron n'en a rien fait. Mais aujourd'hui, on y vient. Toutes les propositions qui sont mises en place, elles sont faites. Mais si on les met pas en place rapidement, ce sera encore une fois plus d'interdiction, plus de culpabilisation et moins d'argent.
Et donc, ressortons ces propositions.
Eh ben oui, Estelle.
Eh ben voilà, faisons ça. Deuxième extrait dans ce zapping. Faut-il un bouclier tarifaire pour la taxe foncière? Dans de nombreuses communes de France, cette taxe pour les propriétaires est en train de flamber et certains Français se demandent comment ils vont faire pour la payer. Une aide de l'État serait donc la bienvenue pour le chef d'entreprise Mehdi Ghezard.
C'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on est riche, hein. Attention. Hein.
Mais bien sûr.
C'est pas parce l'image du propriétaire riche qui. Non. Il y a des gens qui sont propriétaires, qui payent des crédits toute leur vie, qui enlèvent dans le caddie pour payer leur crédit à la fin du mois. D'accord.
Et qui équilibrent leur crédit avec le loyer.
Voilà. Donc à un moment, il y a un problème qui se pose, c'est que si tu taxes des gens comme ça, qui veulent juste eux-mêmes se loger. Et donc, forcément, quand tu achètes et que tu deviens propriétaire, tu mets une pression en moins sur le parc locatif, donc sur le parc aussi des logements sociaux. Alors, donc, c'est toute une procédure qui s'enclenche. Parce que quand tu deviens propriétaire de ta résidence principale, tu n'as plus besoin de ton logement social ou tu n'as plus besoin d'un appartement locatif.
Tu dis, c'est... Rome, tu vas entrer.
Alors, est-ce qu'il faut que l'État aide pour la taxe foncière, Perico Legas? On l'a tous reçu, enfin tous les propriétaires l'ont reçu dans leur boîte aux lettres, et c'est vrai que ça flambe sévère.
Donc, qu'on arrête de nous dire que c'est la taxe d'habitation qui est facturée sur la taxe foncière.
Bah, évidemment.
J'aurais préféré
quelle surprise.
Qu'ils disent
aux compatriotes qui avaient.
Dire aux compatriotes, vous êtes riche, vous êtes propriétaire d'un patrimoine immobilier.
Tous les propriétaires ne sont pas riches.
Le foncier, alors maintenant, les gens qui sont petits propriétaires qui ont gagné à la sueur de leur vie, ceux-là, faut absolument pas les pénaliser. Mais je trouve même,
il devrait avoir un
dégrèvement et dire à ceux qui ont plus, vous allez payer la taxe foncière de votre voisin. Ça, je serais d'accord. Que de donner par, voyez. Qu'on dise carrément, vous avez
pas d'aide, c'est le voisin riche qui paye.
Oui, solidarité nationale. Solidarité nationale. Je sais que les riches, c'est mais il faut assumer à un moment donné.
Mais ça partir de quand riche?
Oui. C'est des tranches à calculer en fonction.
Parce que François Hollande disait 4 000 euros, donc comment on fait?
Non. Je parlais du patrimoine immobilier. Vous avez une maison qui vaut 4 millions d'euros.
Mais il y a déjà un impôt là-dessus.
Vous allez payer. Oui, bien sûr. Déjà, vous allez payer un petit peu plus.
Mais je vous ressorte l'histoire du petit propriétaire à l'île de Ré ou comment ça se passe? Alors comment on fait?
Mais la taxe foncière, c'est un symbole. Taxe d'habitation, c'est plus compliqué déjà. Mais la taxe foncière, donc celui qui est riche, gros possédant, qui a son château, il va payer pour le cercle.
Il y en a combien en France?
Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont déjà
maîtrisés.
Hormis ceux qui font des montages.
Il y a des belles maisons en France avec des gens qui payent peut-être pas foncièrement ce qu'ils devraient payer par rapport à
ça. Non mais ça c'est le problème de la fraude fiscale, c'est un autre problème. Dans un instant, Stéphane Pedrazzi, on va parler conso et peut-être une bonne nouvelle, en tout cas une moins mauvaise que prévue en ce qui concerne vos assurances. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 13h50, vous êtes avec nous sur Estelle Midi, sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h et c'est l'heure de Stéphane Pedrazzi, la Minute Conso. C'est parti.
RMC, Estelle Midi,
la Minute Conso.
Et on commence avec une bonne nouvelle, Stéphane. Enfin, pas une bonne nouvelle, mais peut-être une moins mauvaise que ce qu'on avait prévu. C'est déjà pas mal.
Oui, les assureurs étaient convoqués ce matin par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et ils ont fait finalement un geste pour l'an prochain, pas aussi important que ce qu'on attendait. Bruno Le Maire leur demandait un gel des tarifs pour 2023, mais finalement, les assureurs augmenteront quand même leurs tarifs. Le geste, c'est qu'ils limiteront la hausse en dessous du niveau de l'inflation. Ils ont également annoncé d'autres mesures beaucoup plus ciblées. Par exemple, un chèque auto de 100 euros à destination des chômeurs de moins de 25 ans. Donc, peut mieux faire, oui, mais un geste quand même.
Mais du coup, en fait, ils ont quand même fait un effort, donc ça, c'est plutôt pas mal.
Oui, alors ils ont fait un effort, mais c'est pas à la hauteur, par exemple, de ce qu'ont fait les banques la semaine dernière. Rappelez-vous, il y a une semaine, Bruno Le Maire avait aussi convoqué les banquiers à Bercy pour leur demander une modération des tarifs dans un contexte de dégradation du pouvoir d'achat. Vous connaissez la suite, les banques ont accepté de plafonner la hausse des tarifs à 2% pour l'an prochain. Certaines banques ont même annoncé un gel des tarifs pour certaines catégories de clients les plus fragiles. Évidemment, c'était compliqué pour elles de ne pas faire un geste. Rappelez-vous, l'an dernier, les banques ont annoncé des bénéfices cumulés de plus de 30 milliards d'euros. Ouais. Milliards, hein, pas millions, si on prend les plus gros établissements, c'est-à-dire BNP, Société Générale, Crédit Agricole, etc. Mais pour les assurances, c'est un peu plus compliqué. Vous connaissez l'histoire, il y a eu beaucoup de sinistres climatiques depuis le début de l'année. 1 million de sinistres juste sur les mois de mai, juin et juillet. Facture de 3,9 milliards d'euros sans la conséquence de la sécheresse. Et la Fédération des assurances nous dit que depuis le 1er janvier, on en est à 5,2 milliards pour les sinistres versus 3,5 milliards pour une année normale. Donc effectivement, la situation est compliquée pour les assureurs.
Mais alors, est-ce que le prix des assurances est trop élevé ou est-ce que c'est une question de ressources?
Alors non, objectivement, c'est pas une question de ressenti. Si vous regardez les chiffres, c'est vrai que les tarifs ont nettement progressé ces dernières années. Si vous prenez la période 2010-2020, 33% d'augmentation pour les multirisques habitation.
C'est énorme.
C'est pratiquement trois fois l'inflation sur la même période. 16% de hausse pour l'assurance automobile. On est pratiquement à une fois et demie l'inflation. Et on est pratiquement à 40% de hausse pour les assurances santé. Donc là, on est quasiment trois fois et demie au-dessus de l'inflation. Donc c'est pas une impression. Pour autant, est-ce que les tarifs sont trop élevés. En réalité, la situation est en train de se dégrader pour les assureurs. C'est un peu technique, mais il y a un indicateur qu'on regarde dans l'assurance qui s'appelle le ratio combiné. En gros, c'est ce que les assureurs payent par rapport au montant des primes qu'ils ont perçues. Et ce ratio, il était de 98,1% en 2020 pour l'assurance habitation, 99,8% en 2021, et il sera sans doute encore plus élevé en 2022. Ça veut dire que les assureurs ont redistribué sous forme de paiement pour indemniser l'intégralité pratiquement des primes qu'ils ont perçues. Donc quand on pense que c'est un secteur qui fait d'énormes marges, en fait, la situation est très compliquée.
Oui, et ça ne va pas aller
dans le bon sens.
Dans le bon sens, parce que malheureusement, les aléas climatiques vont augmenter et on voit beaucoup d'assureurs qui bougent sur la question écolo. Par exemple, il y en a qui se posent la question d'assurer Total dans un projet qui est une véritable bombe climatique, le projet ICOP, de construire le plus gros pipeline du monde en Afrique. Pourquoi ? Parce que ça leur coûte de plus en plus cher. Et là, on voit par exemple, et faites attention à ça si vous êtes un particulier, il y a 10 millions de personnes en France qui sont sur des zones, par exemple, argileuses, où leur maison est là-dessus. Moi, je pense que dans les prochaines années, soit les prix vont super augmenté, soit en renouvelant les contrats, ils vont dans les petites lignes enlever le fait que vous êtes garanti parce que vous coûtez trop cher pour eux, il y a trop de risques. Donc faites attention à ça. Il y a non seulement les coûts qui peuvent augmenter, mais il y a aussi la nature des contrats et c'est à mon avis pas mal de gens qui vont se faire avoir, alors que ça concerne quand même 10 millions de personnes, hein, c'est pas rien, on est 60 millions.
Pour les zones argileuses, on appelle ça le RGA, et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que les experts proposent de relever la taxe sur les catastrophes naturelles. Actuellement, c'est 12% sur les contrats habitation, 6% pour les automobiles.
Enfin, ça, c'est pour tout le monde ou c'est que ceux qui
c'est
vivent en zone
inondable? Tout le monde. Le principe de la taxe catastrophe naturelle, c'est que tout le monde la paye pour indemniser des risques particuliers. C'est le principe de l'assurance. On mutualise un risque. Et les experts nous disent qu'il faudrait la remonter à 18%, cette taxe catastrophe naturelle. Donc ça veut dire forcément qu'il y aura des hausses de tarifs assez conséquentes.
Et justement, est-ce qu'il y a quand même des astuces pour payer son assurance moins cher?
Alors, quelques astuces.
Vous êtes là pour ça quand même, Stéphane.
Certains ont eu l'idée, comme l'Europe est un marché unique et comme la France n'est pas le pays le moins cher d'Europe, certains ont eu l'idée de s'assurer dans un autre pays. En théorie, c'est possible. J'ai passé l'après-midi d'hier à vérifier.
C'est arrive à signer.
Mais c'est
bonjour.
Beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, le contrat doit respecter les règles légales du pays. Et en France, par exemple, les contrats doivent avoir une taxe catastrophe naturelle. Donc si vous allez vous assurer en Belgique et que le contrat, vous souhaitez l'appliquer en France, s'il n'y a pas la taxe catastrophe naturelle, ça ne fonctionne pas. Pareil pour les véhicules, en théorie, vous pouvez assurer votre voiture en Espagne ou en Belgique si ça vous chante. Mais en pratique, les assureurs vous demandent une plaque d'immatriculation dans le pays de la compagnie d'assurance. Et si vous n'habitez pas en Belgique, ça va être compliqué d'avoir des plaques belges. D'autres astuces, rapidement, il y a les comparateurs d'assurance, évidemment, on le sait, ça marche. Mais attention à vos données personnelles. Généralement, on vous demande de communiquer votre mail et ensuite, vous êtes littéralement spammé pendant des mois. Autre astuce, on en avait déjà parlé, mais renégocier, trouver moins cher ailleurs. Si vous êtes un bon client, il y a de fortes chances que votre assureur décide de vous faire un petit geste. Pensez à l'assurance au kilomètre, ça se développe de plus en plus et notamment avec la transition écologique, on roule moins, on utilise plus les transports en commun et il paraît que l'assurance au kilomètre, ça risque de devenir la norme dans les prochaines années. Et puis, je suis sûr que ça va te plaire, n'hésitez pas à assurer votre voiture au nom de votre femme comme conducteur principal parce que les femmes ont moins d'accidents. 75% des personnes tuées sur la route sont des hommes. 92% des personnes qui sont contrôlées avec un taux d'alcoolémie positif sont des hommes. 91% pour les stupéfiants. Et donc, si vous déclarez votre femme conducteur principal, ça vous coûtera moins cher.
Très belle astuce, Stéphane. Bah quoi, c'est bien le pouvoir aux femmes. Regardez Mathilde, c'est quand même formidable.
Ouais, non, quand les femmes sont utiles, tout de suite.
Ah bah tout de suite.
Mais bon, on en profite. Non, mais même des hommes qui contestent ces chiffres.
Non, mais je tiens à dire que quand même la meilleure astuce pour si on voulait tous payer moins cher l'assurance, ça aurait été de lutter plus efficacement contre le changement climatique parce qu'on n'aurait pas ces taux communs. Donc quand on dit l'écologie ça coûte cher, qu'on veut pas faire les investissements, ce discours-là, in fine, c'est qui paye? C'est nous. Donc faudrait peut-être changer un peu de manière de penser.
Voilà. Et ceux qui ne vont pas être payés parce qu'ils n'ont pas lancé la pub à l'heure, c'est nous là. Donc dans un instant, et je me dépêche. Dans un instant. Oui, bah justement, tiens, on parlera de ces 8 Français sur 10 qui roulent seuls dans leur voiture. Est-ce qu'il faut rendre le Covid voiturage obligatoire aux heures de pointe? On attend vos avis au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.